Et j'ai eu mes pommes de terre cuites à l'eau avec du beurre. Voilà, et j'ai été content. Voilà. Ce que j'avais à vous dire, je ne demande qu'une chose, c'est de ne pas applaudir. Hein, je ne suis pas venu comme ça en vedette. Je suis venu vous expliquer ce que je vous ai dit.
Après la libération, Claude est de retour à Lyon. Il a 16 ans et demi. Quand il retourne au lycée pour reprendre sa scolarité, le lycée de la Martinière lui répond que ce n'est pas possible car il a loupé une année. Le lycée préfère d'ailleurs éviter de savoir ou de parler de ce qu'il a traversé. À force d'argumentation, il peut réintégrer son cursus en redoublant. En 1948, il finit ses études. En septembre 1949, sa grand-mère, qui n'avait jamais été raflée et qu'il avait retrouvée à Lyon après la libération, meurt. Deux mois plus tard, il a atteint la majorité de 21 ans et il est seul. Il deviendra comptable toute sa vie. Claude Bloch meurt le 31 décembre 2023. Cette émission de Mayday est en mémoire de lui.
En mémoire de Claude Bloch et des millions de déportés de la guerre. Il est 19h02 sur les ondes de Radio Canu et dans un instant, c'est le Canu Info. On se retrouve la semaine prochaine pour Mayday, mercredi 18h.
La dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio, c'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Et bonsoir. Il est 19h, passé de 8 minutes, et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, de quoi on va parler?
On va parler de JMLP. Tu veux dire Jean-Marie?
Oui.
Waouh, dingue.
Ouais, c'est une petite brève.
Elon Musk, le héros de Kasbarian. Ah ouais, on en apprend en lisant les titres, dis donc.
Ensuite, on parlera du gala de la honte. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous devez savoir de quoi on va parler.
Si vous avez suivi le Canu Info de la semaine dernière, vous devriez savoir.
Ensuite, on parlera des violences à Amsterdam.
Et puis, on aura une interview d'un quelqu'un de la Confédération Paysanne. Enfin, et puis, à un moment ou un autre, on aura une interview de quelqu'un de la Confédération Paysanne. Il est écrit à cet endroit pour l'instant, mais... Rodrigue Petito...
Dit le R.
Le R, figure du mouvement en cours en Martinique, a été arrêté.
Ensuite, on ira faire un tour du côté de Marseille avec le procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne.
Et puis quand même, c'est des gros titres dans les autres journaux, on va bien en parler un petit peu. La COP29, c'est hyper important.
Et on finira par une plainte de Sea-Watch contre l'Italie.
Pour une fois que c'est eux qui vont en prison.
C'est pas dit encore. Et on commence par deux petites brèves.
C'est parti. Moi, je commence par une nouvelle affreuse et je suis désolée de commencer l'émission comme ça. Peut-être vous l'avez entendu ailleurs ou lu sur Internet. Il y a Dorothy Allison, qui est une autrice américaine, qui est décédée le week-end dernier. C'est une autrice qui a beaucoup écrit sur des violences, notamment intrafamiliales, sur le fait de ce que c'est d'être féministe, lesbienne, issue de classes pas favorisées. Et qui a contribué pour beaucoup à faire entendre des choses dont on ne parlait pas dans la littérature et qui a aidé plein de gens à tenir debout dans des moments pas faciles. Et donc c'était vraiment une grosse perte pour notamment la communauté féministe.
Mais n'allez pas croire qu'elle ait fait tout ça que sous forme de théorie. Jetez-vous plutôt, si jamais vous ne connaissez pas, sur le livre qui s'appelle Histoire de Beaune, qui est un roman magnifique.
Ah, et ben peut-être, en tout cas, on finit ces brèves, peut-être sur une bonne nouvelle ou sur une stratégie, on ne sait pas. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé depuis le début de la semaine. Donc, future bonne nouvelle ou stratégie juridique pour éviter un déplacement au tribunal, l'avenir nous le dira. Smiley qui croise les doigts. Et on va donc parler, on va faire un petit retour en France, enfin on va rester en France avec le ministre de la fonction publique qui a de manière mais alors très très enthousiaste félicité Elon Musk pour sa nomination au ministère de, je cite le nom du ministère, d'efficacité gouvernementale. Voilà, c'est...
Donc, ministère qui n'en est pas tout à fait un pour des questions juridiques américaines, mais on passera là-dessus. Il a déclaré sur X, je le cite, « Félicitations pour avoir accepté ce super défi, Elon Musk. J'ai hâte de partager avec vous les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie, réduire la paperasse et repenser les organisations publiques pour améliorer l'efficacité des agents publics. » Fin de citation. On a donc un ministre de la fonction publique qui trépigne à l'idée de recevoir les conseils de Musk, qui est, en plus d'être adepte des théories du complot et de propager une idéologie d'extrême droite, va tailler dans les dépenses publiques à la tronçonneuse façon Javier Milei. Pas étonnant que cet ultra-libéral souhaite mettre les services publics à genoux et il souhaite donc commencer par réduire de 10 à 90% l'indemnisation de congés maladie des fonctionnaires et l'instauration de 3 jours de carence non payés au lieu d'un seul actuellement. Peu de chance qu'il s'arrête là, donc c'est en tout cas un bon début de discussion à la veille d'une réunion avec l'intersyndicale de la fonction publique vers une grève donc des services publics.
Bon, alors je regarde comment on est habillé dans le studio là, et je crois qu'on n'y est pas du tout, les gars. Je suis désolée, vous allez nous foutre la montre à Paris.
Là,
ça le fait pas du tout. Il y a un gala ce soir, je sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu. Un truc normalement où on devrait aller bien habillé, se mettre bien, petite coupe de champagne, petite robe. À Paris, donc, le
c'est
gala.
C'est pour ça qu'on aime l'habiller, c'est trop loin.
Qui est merde. Un gala de la honte, et pas pour rien, franchement. Israel is Forever, c'est une organisation qui a été créée il y a bien trop longtemps et qui ne devrait plus exister depuis un petit moment. Une organisation qui est dirigée par Nili Kupfer-Naouri, qui est une personne qui a tenu des propos génocidaires, notamment sur des grandes télés, mais pas que. Elle a aussi empêché physiquement, corporellement, des personnes d'acheminer de la nourriture et des médicaments à Gaza même. C'est quelqu'un qui pense que le grand Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate et qu'un jour nous l'aurons, qui propose aussi d'exterminer les enfants palestiniens, notamment parce que depuis la naissance, ils sont éduqués à détester les juifs et donc ce sont des menaces. Cette personne donc, qui dirige cette association a proposé un gala, une fête. Si vous n'avez pas vos places, c'est encore possible. Hein. 260 euros l'entrée, on soutient comme on peut. Les fonds serviront.
C'est important le soutien.
Les fonds serviront à acheter et à acheminer du matériel militaire aux soldats israéliens mobilisés à Gaza. Et donc, un événement qui a fait hurler pas mal de monde, notamment quand l'information communiquant la présence d'un ministre bien connu pour ses frasques, là encore génocidaires, Smotrich, ministre des Finances israélienne, qui a donc annoncé sa venue lors de l'événement. Alors, c'est une technique qui a déjà été utilisée par le passé. En voyant que ça soulevait de l'indignation autour des réseaux mobilisés contre cet événement, on a annoncé le fait qu'il allait pas venir, donc viendra pas, on sait pas. La dernière fois, ils ont annoncé qu'il viendra pas, il est venu quand même. Et donc, Smotrich invité. Il y a plusieurs organisations qui sont mobilisées pour que cet événement n'ait pas lieu. Et le préfet Laurent Nunez, retenez son nom, l'histoire le jugera, s'est dit qu'il n'y avait aucun souci, pas de problème. Donc, a priori, le gala aura quand même lieu. Mais il y a plein de rassemblements partout en France, et notamment à Paris. Je ne sais pas ce qui se passe à Lyon. Je suis désolée de dire ça.
Et
merde,
Lyon, ça se voit immédiatement.
Horrible, pardon. Voilà pour moi.
Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Tiens, regarde Georges, par exemple.
J'étais tout gosse, moi. Et quand je voyais ces types aux actualités, je me disais, c'est ça, un flic. Quelle horreur.
Ah, oh, ça pue, ce qu'est-ce que c'est.
Sans mauvais, mais guéris bien.
Ah oui, Georges, ça pue. Écoute plutôt Radio Canu.
Et on va faire un tour du côté d'Amsterdam.
Eh ben oui, mais sans changer entièrement de sujet, puisque j'imagine que vous avez difficilement pu passer à travers, mais la semaine dernière, il y a eu un déferlement antisémite dans les rues d'Amsterdam à l'occasion d'une histoire de match de foot, l'Ajax Amsterdam, le Maccabi Tel Aviv, du foot. Bon, alors d'un côté, on s'est pas dit sur le coup, on peut pas y croire, parce qu'on parle bien d'un match de foot, personne s'attend à ce que tout le monde soit intelligent, ou woke, ou non raciste, ou je sais pas quoi. que tout d'un coup des supporters quelque part soient massivement antisémites, ma foi, moi je n'ai pas fait plus attention que ça. En tout cas, en écoutant et en lisant la presse française, c'était assez unanime. Il n'y avait pas beaucoup de raisons d'en douter. On pouvait facilement se dire que même si on trouvait craignos de laisser participer Israël à des matchs de foot en Europe, même si on aurait préféré un boycott, quand même, c'était pas une raison pour lancer une grande chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam. Et pour ma part, c'est hier, uniquement hier, en parlant avec une copine qui habite à Amsterdam, que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Alors j'ai un petit peu vérifié, dans la presse française, ce qui avait été raconté depuis le premier grand témoin, et ma foi, j'ai trouvé une paire d'articles, c'est-à-dire j'en ai vraiment trouvé deux. Alors des articles bien plus petits, loin dans les pages qu'on lit pas. Alors on comprend, c'est une métaphore, même moi qui suis un boomer, je lis plus des journaux papier, mais en tout cas des petits articles plutôt discrets, qui venaient nuancer un peu ce qui avait été dit hyper fort, et qui continue à être dit hyper fort, ma foi, par toute la droite française et mondiale. Bref, je vais vous raconter un peu ce que ma pote d'Amsterdam m'a raconté. C'est en partie du témoignage direct et en partie aussi ce que... Parce qu'elle dit que la presse néerlandaise est partie très très fort aussi dans la dénonciation de l'antisémitisme, mais depuis a quand même, pour le coup, comme ça se passe dans le pays, qu'il y a des tonnes de gens à Amsterdam qui ont vu ce qui se passait, a beaucoup rétro-pédalé. Alors, dès le mercredi, c'est-à-dire la veille du match, les supporters du Maccabi Tel Aviv étaient à Amsterdam et arpentaient les rues en mode bien hooligan quand même. Dès le mercredi, ils ont commencé à, par exemple, arracher des drapeaux palestiniens qui pendaient à des fenêtres d'habitation privée. Ils ont commencé par un squat du centre-ville. Grosse provoque. Et il faut bien comprendre que ces supporters, en fait, c'est énormément des jeunes appelés qui étaient démobilisés et qui étaient à Gaza il y a encore pas très longtemps. Des gens qui savent ce que ça veut dire la violence et la grosse violence et la violence qu'ils exercent eux-mêmes. Alors voilà, ils ont continué leur journée du mercredi, puis du jeudi, en terrorisant, alors en particulier la population arabe d'Amsterdam. Amsterdam est une ville où il y a en particulier une grosse communauté marocaine. Un chauffeur de taxi marocain a été agressé, son taxi a été explosé, démonté. Il y avait aussi un certain nombre de maisons avec des drapeaux israéliens, palestiniens, semble-t-il plus particulièrement à ce moment-là, histoire de montrer de la solidarité au moment d'arrivée d'Israéliens pour le match. Et puis d'autres maisons qui avaient posé sur les rebords des fenêtres des pastèques, qui est aussi, semble-t-il, un signe de solidarité avec la Palestine dans plein d'endroits, en particulier les endroits où c'est un peu où ce soutien à la Palestine est un peu criminalisé. Et donc plutôt que de sortir avec un drapeau palestinien, on risque d'avoir un problème avec la police, on montre une pastèque. Et ça, c'est difficile d'interdire les pastèques, alors voilà. Les habitants de ces maisons ont eu affaire aux supporters, ont été bousculés, des fenêtres ont été pétées, des passants avec des keffiyehs ont été agressés ou se sont fait cracher dessus. Une bonne grosse foule de hooligans bien fachos qui font une descente dans des quartiers arabes de la ville et qui en profitent pour se faire aussi tout ce qui ressemble à du gauchisme. C'est à ça que ça ressemblait. Des slogans entendus pour le coup directement par ma pote ou par ses amis dans ces deux jours-là. On a « ça l'encule les Arabes », on a « pourquoi il n'y a pas d'école à Gaza ?» parce qu'il n'y a plus d'enfants à Gaza. On a encore « on va boire votre sang et violer vos femmes ». Le tout en anglais plutôt qu'en hébreu pour que tout le monde soit bien capable de comprendre ce qui se passe. Des types mignons comme tout, commente ma pote. Au stade, pendant le match, il y a eu une minute de silence pour les victimes des inondations en Espagne. Mais comme l'Espagne a affirmé haut et fort il y a déjà plusieurs mois qu'il était hors de question qu'elle livre encore des armes au gouvernement hébreu, la minute de silence a été transformée en une minute de bordel. Ça, par exemple, ma pote l'a lu dans le journal, mais je l'ai aussi trouvé dans un très discret article du Monde, celui qui revenait sur le fait que c'était pas tout à fait ce qu'on avait cru au départ. À un moment du jeudi, dans tout ce bordel, des gens, et en particulier des Marocains, ont réussi à se rassembler et à se défendre, et finalement à être plus nombreux et plus forts que les supporters israéliens, et c'est à partir de ce moment-là que les supporters se sont mis à crier à l'antisémitisme. Les Pays-Bas sont gouvernés, on a bien compris, par une coalition de plusieurs partis. Disons l'équivalent en France serait une coalition entre LR, le RN et la coordination rurale. Pas exactement woke. Ce gouvernement a, comme un seul homme, dénoncé les attaques antisémites qui s'étaient produites ces jours-là. Et une chasse a été lancée par les flics contre les jeunes marocains en particulier. Il y a eu des arrestations, alors pas des arrestations de hooligans fachos qui étaient venus ratonner, uniquement des arrestations de gens qui se sont défendus. Bien sûr, mais même en réalité, on peut réellement penser que c'était en grande partie, si ça se trouve prémédité, l'emballement international a suivi immédiatement. Et le gouvernement israélien s'est régalé, envoyant des avions pour sauver les supporters, des médecins, des psychologues, pour les jeunes Israéliens choqués par la violence qu'ils avaient subie. On a eu des déclarations de Macron, de Barnier, mais aussi, par exemple, du gâteux qui est encore pour quelques semaines à la Maison Blanche. En résumé, tout ça ressemble bien, au-delà d'une occasion de ratonner à l'étranger pour des militaires démobilisés, à une bonne grosse opération de com' bien réussie. Et c'est peut-être pas un hasard si elle intervient quelques jours après l'élection de Trump, au moment où Netanyahou se sent devenir absolument tout puissant.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Et c'est Rodrigue Petitiot, grutier de métier, à la tête du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, on pourrait le réduire par RPPRAC, qui a été arrêté hier soir à Fort-de-France. Le collectif dont il fait partie réclame sa libération immédiate. Alors on ne sait pas grand-chose de cette arrestation. Il était il y a deux jours à Paris pour manifester avec des milliers de personnes contre la vie chère aux Antilles et en solidarité avec la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et la veille de son arrestation, il s'est introduit avec trois autres personnes dans l'enceinte de la résidence préfectorale située dans un quartier huppé de Fort-de-France. L'objectif de cette action, un entretien avec François Noël Buffet, ministre des Outre-mer, arrivé sur l'île le lundi. Il s'était rien passé de spécialement. Une des personnes de la préfecture, alors je ne sais pas si c'était le préfet directement, mais en tout cas c'était un peu interposé sur cette introduction du site, mais voilà, ça n'avait pas donné lieu à un truc de dingue. Le soir même, plusieurs manifestations ont eu lieu en Martinique. Devant le commissariat où il est détenu, 350 personnes se sont assemblées. Un barrage enflammé s'est monté dans le quartier de Sainte-Thérèse, quartier de résidence de Rodrigue Petitot. Et des émeutes et pillages ont éclaté un peu partout pendant la nuit. Pour rappel, depuis début septembre, une large mobilisation contre la vie chère a mobilisé en Martinique. Et si le niveau de vie est nettement inférieur à celui de la métropole, le prix des denrées alimentaires est en moyenne 40% plus élevé que dans l'Hexagone, avec une inflation de plus de 3,2% entre juin 2023 et juin 2024. Voilà, on sent que c'est cette petite inflation qui a fait éclater une colère quand même bien bien profonde présente sur l'île. Et on va s'écouter une petite musique.
Bambalam, she's from Birmingham. Bambalam, way down in Alabama. Bambalam, well, she's shaking that thing. Bambalam, boy, she makes me sing. Bambalam, whoa, Black Betty. Bambalam, whoa, Black Betty. Bambalam.
Bien, hop, ça y est, on va avoir Martin qui est vigneron, hop, ça sert à rien de mettre l'autre musique, qui est vigneron indépendant dans le Beaujolais. Est-ce que Martin, tu nous entends?
Oui, je t'entends Julien.
Super, attends, je monte un peu le son. Alors, est-ce que, oui, alors oui, on t'appelait pour que tu nous parles un peu des accords de Mercosur, parce qu'on entend parler un peu de partout en ce moment dans la presse, notamment aujourd'hui, puis il y avait le patron de la FNSEA qui était interviewé en grande pompe ce matin sur France Inter, donc on s'est dit que ça valait quand même peut-être le coup d'avoir un autre son de cloche, en tout cas pas celui du méga syndicat libéral. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet accord?
Ouais, carrément. Du coup, moi, je suis Martin Thibert, je suis vigneron en bio dans le sud du Beaujolais et je suis membre de la Confédération Paysanne, qui est un des syndicats agricoles. Et le Mercosur, on est un peu sur le dossier aussi parce que donc c'est un traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud et l'Union européenne. Et comme tous les traités de libre-échange, et ben en fait c'est une mise en concurrence des agricultures et des industries des deux pays au profit la plupart du temps des multinationales finalement. Ça nous inquiète au niveau de l'agriculture parce que à chaque fois qu'il y a mise en concurrence, et ben on tire les normes vers le bas, les normes sociales, les normes environnementales pour que les pays restent compétitifs. Ils adorent la compétition. Et ça, bah, ça implique que la France, qui a plein de normes assez qualitatives au niveau environnemental et social, va chercher à tirer vers le bas et pour ça, bah, pousser pour les OGM, pour les hormones de croissance, pour des produits chimiques qui sont aujourd'hui interdits, des conditions de travail dégradées pour les ouvriers agricoles et pour les paysans et les paysannes. Et en ça, nous, on s'est toujours opposé au traité de libre-échange à la Confédération Paysanne.
Est-ce que peut-être qu'on peut rappeler que c'est pas le premier?
C'est assez étonnant. Pardon?
Je disais peut-être qu'on peut rappeler que c'est pas le premier. Là, on parle beaucoup du Mercosur, mais qu'il y en a eu plusieurs.
Tout à fait. Et c'est assez cocasse d'entendre aujourd'hui le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui prend position contre le Mercosur, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu ce syndicat sur plein d'autres traités de libre-échange, le TAFTA avec les États-Unis, le CETA avec le Canada, les accords avec la Nouvelle-Zélande, avec le Maroc, qui à chaque fois font rentrer sur le marché français toute vanne ouverte des produits avec toujours ce truc des normes de production bien en dessous de la France et du coup des prix bien en dessous. Et comme on est dans un système libéral, compétitif, ça pousse l'agriculture française à dire on veut moins de normes, on veut moins de normes. Et c'est un peu le cheval de guerre de la FNSEA. Et du coup, aujourd'hui, on se demande un peu pourquoi le Mercosur les inquiète. Est-ce que ça serait parce qu'on a des élections professionnelles dans quelques semaines au niveau agricole et que du coup, ils cherchent à rassurer leurs adhérents sur leurs intentions? Je ne sais pas.
Quand tu dis les élections professionnelles, c'est les élections à la Chambre de l'agriculture?
Alors exactement, les élections pro, en agriculture, elles regroupent plusieurs choses, mais la principale, c'est qui gère les chambres d'agriculture. Et la liste qui fait le plus de voix qui remporte la gestion de la chambre d'agriculture départementale. Et en fait, c'est pas vraiment une proportionnelle, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que la liste qui a le plus de voix prend 50% des sièges, plus la proportionnelle sur l'autre moitié. Donc nous dans le Rhône, on est 10% derrière le regroupement de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, qui c'est à peu près la même chose. Et même si on a juste 10% de moins, on n'a que 3 sièges sur les 18. Voilà, c'est assez étonnant.
Et pour toi, ce changement un peu de boussole de la part de la FNSEA serait dû à ça remonterait éventuellement à la grogne, enfin à la colère qui avait explosé l'année dernière avec les blocages dont on se souvient, et où la FNSEA avait été largement à la traîne du mouvement.
Alors à la traîne, mais pas complètement, parce qu'ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait quelque chose à récupérer. Et là où le mouvement avait été spontané au départ, la FNSEA s'est un peu posée en chevalier blanc de la défense de ses adhérents et de l'agriculture en général. Mais quand on voit le résultat, en fait, c'est assez triste. Donc la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, elle a toujours co-géré, co-décidé avec le ministère de l'Agriculture les politiques agricoles. Et là encore, pendant la grogne de la colère, les paysans qui sont sortis de leur ferme à l'hiver dernier, la négociation de sortie de crise, la seule chose qui a été obtenue pour faire rentrer les paysans dans leur ferme, c'était moins de normes. Enfin, c'est la chose principale, en tout cas. Comme si avoir moins de normes environnementales allait permettre aux paysans et aux paysannes de vivre mieux de leur travail, d'avoir plus de revenus. Nous, on milite à la Confédération Paysanne, par exemple, pour des prix planchers, pour une juste rémunération du travail. Et c'est pas le cas de ce syndicat majoritaire. Et encore une fois, sur cet accord de libre-échange, on comprend pas trop. Ils ont un peu changé de pied, quoi. Donc, on est surpris. Et en même temps, on se dit, est-ce que c'est un peu belliqueux? Est-ce que c'est une histoire purement électorale? Et puis derrière, ils vont continuer à militer pour troquer notre agriculture contre, tu vois, vendre du bétail contre des bagnoles et des rafales. C'est un peu ça le principe des traités de libre-échange. On fait venir des produits agricoles de piètre qualité en échange de vendre nos matériels industriels et parfois de guerre, quoi.
Et même, j'imagine, peut-être même plus directement au sein de l'agriculture, mais j'imagine que même dans ces traités de libre-échange, il y a aussi peut-être un avantage pour les ultra-industriels de la FNSEA à traiter de manière financière avec des pays et pouvoir éventuellement exporter, je sais pas, j'imagine des marchandises que eux aussi produisent vers d'autres pays.
Complètement. On a une industrie de production de matériel agricole et de produits phytosanitaires aussi, de pesticides, d'insecticides, de tous les produits qu'ils appellent protection de la plante, qu'on peut retrouver dans l'agriculture. Tout ça, c'est des produits d'exportation aussi. Et ces accords permettent d'inonder les marchés hors Europe de ces produits-là avec moins de contraintes douanières. Donc il y a complètement un intérêt industriel, et y compris dans l'industrie agricole. Ouais.
Et par exemple, toi, tu disais que t'étais vigneron. On entend quand même beaucoup en ce moment ces histoires de libre-échange, que les vignerons français ne pourraient jamais s'en sortir sans vendre le vin en dehors de la France. Pour toi, par exemple, concrètement, un traité de libre-échange, ça t'aide ou pas du tout?
Et ben, en fait, c'est encore une fois, c'est un peu un écran de fumée cette rhétorique, parce que pour la France, les plus gros marchés à l'export, et il est vrai que la viticulture française exporte beaucoup, ça fait partie des balances commerciales extérieures les plus importantes, et en France, nos deux principaux pays d'exportation vont être les États-Unis d'Amérique et la Chine. Ces deux pays avec lesquels on n'a pas d'accord de libre-échange. Donc en fait, on peut très bien faire de l'exportation et du commerce international sans ces accords qui font sauter toute forme de régulation.
Et peut-être toi, tu peux pas le dire pour pas avoir les foudres de tes voisins, mais il y a aussi une part industrielle dans les vignobles français, où c'est pas seulement des petits producteurs sympathiques, mais il y a aussi des énormes productions qui produisent des hectolitres et des hectolitres qui déversent un peu partout, quoi.
Ben, tout à fait. Moi, je suis engagé dans une forme d'agriculture paysanne, résiliente, avec un regard très attentif au niveau environnemental, au niveau social, Et on n'est pas forcément sur des modèles très productivistes ou en tout cas industrialisés à la Confédération paysanne. Mais ces modèles-là, ils existent. Et effectivement, ces modèles-là, ils peuvent avoir aussi besoin de débouchés, notamment dans la viticulture. Après, aujourd'hui, on est en train d'en payer un peu le prix. Les modes de consommation changent. Il y a une très grave crise au niveau viticole, au niveau commercial en ce moment. Et clairement, je pense que nos petits modèles paysans un peu plus flexibles, un peu plus résilients, plus dans l'entraide, vont mieux s'en sortir que les gros modèles des caves coopératives qui ont été dévoyés, financiarisés, où d'ailleurs les paysans se retrouvent, les agriculteurs se retrouvent souvent exploités et sous-payés pour leur travail, ce qui les pousse d'ailleurs à courir toujours après la production, vu que les prix ne sont pas rémunérateurs.
Et tu as pas mal parlé des normes au début. On peut revenir très brièvement sur le dernier mouvement qui avait eu lieu l'année dernière. Donc effectivement, ces histoires de normes, c'était vraiment le truc dont on a le plus entendu parler. C'était on avait vraiment l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur d'agriculteur, où on a l'impression que les normes, c'était vraiment la chose qui écrasait, qui vous écrasait. C'était vraiment l'enfer sur terre. Alors c'est vrai qu'on sait que c'est aussi ce qui protège les consommateurs, consommatrices et les professionnels qui travaillent, parce que utiliser des produits dangereux, c'est aussi les gens qui les manipulent pour qu'ils sont exposés. Mais du coup, sur ce mouvement, hormis ces histoires de normes, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis?
Eh bien, honnêtement, pas grand chose. Alors il y avait peut-être des pistes d'amélioration sur les lois d'orientation agricole, etc. Mais tout ça a été balayé au moment du remaniement ministériel. Là, tous les travaux en cours ont été un peu remis à zéro. Mais foncièrement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Le plus gros truc qui a été négocié immédiatement, c'était le gel du plan Ecophyto. Et en fait, le plan Ecophyto, c'est le plan qui encadre l'utilisation des produits chimiques, des pesticides, des insecticides, etc. Et donc la FNSEA, en tête de négociation, a obtenu de geler ce plan, qui avait des ambitions de réduction assez fortes, assez belles. Mais on n'a pas vu nos revenus augmenter. Les prix planchers d'achat de nos productions, pour lesquels la Confédération paysanne milite, ça a été mis au placard. Ils en ont à peine parlé du bout des lèvres, mais la FNSEA a très vite fermé la porte. Et non, clairement, la qualité de vie des agriculteurs et des agricultrices, c'est pas amélioré depuis. Et là, je pense qu'on va repartir dans une séquence de manifestations agricoles. On sent là que ça recommence à râler. On a eu une saison très compliquée cette année au niveau météo. Et là, la saison se calme et en fait, la colère va surgir, je pense.
Et vous, du coup, vous continuerez à défendre une meilleure agriculture pour tous et toutes.
Bien sûr, et là d'ailleurs aujourd'hui on avait plein de collègues dans plein de départements au niveau de la Confédération paysanne qui étaient mobilisés, par exemple devant des McDonald's avec des banderoles pour dire que nous, ça fait 25 ans qu'on se bat contre les accords de libre-échange, contre l'OMC très très libéral. Il y avait des copains et des copines agriculteurs qui étaient dans des concessions automobiles. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais avec des slogans comme des vaches limousines, pas des limousines. On essaye de trouver comment faire parler de nos problématiques et on est mobilisé, quoi. On a du boulot sur nos fermes. On aimerait bien consacrer notre temps à autre chose que ce genre de mobilisation, mais en fait on n'a pas le choix, quoi, que de défendre nos modes de production et notre projet de société, notre projet agricole.
Et ben justement, quand tu dis projet de société, parce que du coup, quand on parle de traité de libre-échange, on parle un peu de traités internationaux. D'un point de vue, du coup, solidarité internationale, comment la Confédération paysanne articule des solidarités?
Eh ben, la Confédération paysanne, elle fait partie de la Via Campesina, qui est un regroupement, le plus gros regroupement mondial en fait d'organisations syndicales. C'est une internationale, c'est-à-dire qu'on veut défendre tous les paysans et paysannes à l'échelle mondiale, nos modèles d'agriculture paysanne dans chaque pays. Et la Via Campesina, elle regroupe, je crois de tête, plus de 130 syndicats agricoles dans 80 pays, et on échange énormément là-dessus. On a des colloques très régulièrement. On échange sur nos bonnes pratiques, on se soutient dans nos luttes. On a une section de la Via Campesina à l'échelle européenne qui est à Bruxelles et qui essaye tant bien que mal de militer en faveur de nos projets agricoles à Bruxelles auprès du Parlement européen. Mais c'est vrai que malheureusement, on fait pas le figure face à la machine. La FNSEA a également un syndicat au niveau européen qui s'appelle la COPA-COGECA. Et ils ont bien plus de moyens que nous, et ils ont bien plus l'oreille des parlementaires que nous, malheureusement.
On imagine. Et ben, sauf si tu avais encore un truc à rajouter.
Je profite d'être à l'antenne pour faire un peu d'autopromotion. J'ai un petit collectif vigneron dans le sud du Beaujolais qui s'appelle la Team Sud Beaujolais Bio, et on organise un événement le 30 novembre pour fêter les primeurs. Dégustation toute la journée, repas concert le soir, et il y a toutes les infos sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet teamsudbojo.fr.
Super. Eh ben merci beaucoup en tout cas, et bon courage pour la suite.
Merci pour l'invitation. Ouais. À bientôt, Julien.
Salut.
Salut.
Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et on part à Marseille.
Ces jours-ci, pour les trois semaines à venir, se tiendra à Marseille donc le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. C'était le 5 novembre 2018. Deux immeubles du quartier de Noailles, dans le centre de la ville, s'étaient écroulés et sous les décombres, on avait retrouvé les corps sans vie de 8 personnes. Faut bien comprendre que ça avait provoqué un gros choc chez plein de monde. La mairie, alors dirigée par ce bon vieux Jean-Luc Godin, avait brillé, mais en mode émail diamant, par son incompétence dans la gestion de la crise et ça. Et puis le choc causé par l'effondrement, et puis la découverte des graves dysfonctionnements qui avaient précédé cette catastrophe, qui aurait pu et qui aurait dû être évité. Tout ça, ça a provoqué une colère immense, et cette colère, elle est toujours encore bien solide chez plein de personnes, décidées à ne pas oublier ce qui s'est passé.
Et puis le nombre de gens à l'époque, quand il y a eu tout d'un coup « il faut pas que les immeubles s'écroulent sur les gens », le nombre de gens qui sont retrouvés à la rue...
On y arrive.
Ah, pardon.
C'est exactement ça dont il s'agit ici. Et, c'est exactement ça dont j'ai envie de parler ce soir. En ce moment, donc, on a ce procès qui nous sert à essayer de comprendre quels ont été ces dysfonctionnements qui ont fait que ça a été possible, que les effondrements se soient passés. Je pense pas qu'on soit obligé d'attendre le verdict pour pouvoir énoncer un peu clairement que sur le banc des accusés, il va y avoir une densité assez qualitative, assez forte, de grosses raclures. Et ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin des trois semaines. Je pense notamment aux élus auprès de qui les signaux d'alarme ont été tirés à maintes et maintes reprises qui n'ont rien fait. Je pense aux propriétaires qui n'ont pas fait les travaux qui étaient nécessaires. Je pense à la personne chargée de déterminer si l'immeuble pour lequel on avait commencé à s'inquiéter un petit peu et dès 2000 d'accord. Donc ça faisait quand même un paquet d'années qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient du du fait que cet immeuble puisse tenir debout. Il y a quand même un agent qui a été une heure sur les lieux, quelques temps avant, mais vraiment pas longtemps avant les effondrements, qui a dit non, il n'y a pas de souci. Et puis les gens ont réintégré leur logement. On pense à ces personnes et peut-être spéciale dédicace à Xavier Cachard. Je dis même son nom, il indique le méchant, Xavier Cachard, qui est un pote de muselier qui dirige la région sud, Nord-Pas-de-Calais, Nord-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là. Élu LR, Xavier Cachard, élu Les Républicains, propriétaire d'un des logements effondrés et ami de Jean-Luc Godin à l'époque, et qui s'est accroché à son poste au conseil général, à la GAL.
Comme Gaël Perdriau à la mairie de
Saint-Étienne. Comme Gaël Perdriau à Saint-Étienne. Et donc tout ça, ça va être discuté et les méchants vont devoir s'expliquer. J'aimerais parler d'autre chose ici, parce qu'il y a un aspect de cette affaire qui me paraît vraiment très importante pour ne pas que cette histoire devienne un espèce d'équivalent immobilier de la bavure policière. Je crois que un des trucs les plus hérissants avec l'espèce de monstre capitaliste, c'est sa capacité à casser les histoires qu'on se raconte et à rendre les choses absolument illisibles. Donc il faut que ça soit lisible, et donc pour que ça soit lisible, en préparant cette émission, je me suis dit qu'il fallait, pour parler de Marseille, parler de Venise. Venise, la sérénissime, les Vaporetto à la place des Fiat Punto et les cafés à 5€. Venise, vous le savez peut-être, ça fait un moment qu'elle est plus si sérénissime que ça, parce qu'elle va mourir. Elle va mourir parce que tous les ans, il y a des paquebots de touristes par un paquet de milliards qui se déversent sur elle pour regarder combien, oh, elle est belle. Et du coup, son sol s'enfonce. C'est trop lourd pour elle. Et puis, surtout, la raison principale, c'est ce bon vieux réchauffement climatique, les glaciers qui fondent, la mer Méditerranée qui rompt, et hop, au JT de JP Perno, on voit sur la Piazza San Marco des gens qui ont de l'eau jusqu'aux genoux en 1980, jusqu'aux cuisses dans les années 2000, et a priori, d'ici 2030... Donc, il y a un énorme paquet de fric qui a servi à engraisser les mafias berlusconiennes pendant des décennies, jetées à la flotte dans des projets avec des noms d'attractions de Disneyland, genre, je sais plus, Atlanta ou un truc comme ça. Mais il n'y a rien à faire, on peut retarder le truc, mais on ne peut pas l'empêcher, c'est incontestable. Un jour, Venise sera sous l'eau, et ça sera la faute à qui ? Au caca, au pipi, au capitalisme. Vous connaissez la chanson. Bon, jusque-là, voilà. Figurez-vous que pas plus tard qu'il y a quelques années, j'ai une copine qui a exhumé des tréfonds des archives d'une obscure télé privée du Veneto, donc la province de Venise, justement, une vidéo. Et cette vidéo, ces jours-ci, à l'heure du procès de la rue d'Aubagne, elle m'est revenue à l'esprit plusieurs fois. Et comme mon esprit est sacrément malin, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. La vidéo, c'est une pub. Un peu à l'ancienne, genre années 80, qui montre un agent immobilier tout content, monsieur l'agent, qui nous propose de faire une affaire en or massif. Il vendait des terrains sur les terres du Veneto, loin de Venise, donc vraiment sur les terres, un endroit, c'est pas un endroit où on se bousculait ni à l'époque ni maintenant, je crois, pour habiter. C'est une campagne plutôt désertée, plutôt pauvre, et il me semble qu'il y a pas mal de moustiques, parce que je crois qu'il y a des rizières, bon, je suis pas sûre. Il vendait donc des terrains, et il vendait tant qu'à faire, les maisons à construire et à poser dessus. Et il avait un argument de choc: achetez maintenant pour une bouchée de pain votre maison qui dans 50 ans sera au bord de la plage. J'ai une image que j'aime bien, parce que je trouve que pour expliquer le cynisme, ça fonctionne à merveille. Parce qu'alors oui, le capitalisme, ça détruit, mais tant qu'à faire, il profite de la ruine. C'est une espèce de serpent flexible comme ça. Et donc, pour vous parler de Marseille, parce que c'est très joli, pour vous parler de Marseille avec cette histoire d'effondrement, il y a quelque chose qui me semble essentiel de se rappeler et qui est un des enjeux centraux de ce process, c'est qu'évidemment on a des méchants individuels, mais on a aussi une espèce d'énorme faute collective qui incombe à la spéculation immobilière. Faut savoir, justement, tu commençais à en parler tout à l'heure, juste après les effondrements, on s'est rendu compte qu'il y avait 13% du parc immobilier marseillais qui était insalubre, et que parmi ces 13% de l'habitat, on en avait dans les 600 qui devaient être évacués de manière urgente. De manière urgente, c'est quasiment manu militari, c'est-à-dire que tu as les flics qui déboulent chez toi, tu as une heure pour faire ta valise, tu pars, il y a un gros cadenas sur la porte de ta maison, et on t'envoie à l'autre bout de la ville.
ville, loin de l'école des enfants, loin de l'endroit où t'as tes potes, où tu travailles peut-être, où t'as tes habitudes, et où en tout cas tu te débrouilles plus ou moins tant bien que mal, parce que souvent ça touchait des gens précaires, mais pas que. Donc 600 immeubles évacués manu militari, donc dans les semaines qui ont suivi les effondrements, dont un tiers à Noailles, le quartier de la rue d'Aubagne, pardon, qui est un quartier central et qui est encore ou qui était encore un quartier populaire et qui était peut-être même un des rares exemples de quartiers populaires centraux dans une ville qui existe encore en France actuellement. Les personnes ont été évacuées le temps que les travaux, la stabilisation, la mise en sécurité, blablabla, soient effectués. Sauf que tu te doutes bien que dans un quartier, donc là, Noailles, on parle d'un tiers de ces 600 immeubles, donc ça fait 200 immeubles évacués dans la foulée des effondrements de Noailles. 200 immeubles laissés vides, rebâtis, reconstruits, refignolés, machin. Tu ne reviens pas avec ton même loyer derrière. C'est l'idée où tu vas le revendre, où tu vas, en tout cas, il y a eu de la spéculation en fait dessus. Et tout à l'heure, mobilisant des capacités de calcul extraordinaires. Merci à mes acolytes qui m'ont aidé parce que je savais plus comment faisait pour des pour faire des pourcentages. Je savais même plus le mot, mais tu vois, c'est, on est loin. Début 2018 à Noailles, le mètre carré était à 1614 €. Notez ça sur vos cahiers d'écoliers. En octobre 2024, 6 ans après les effondrements, c'est passé à 2500 €, soit une hausse de 56%. Donc, je ne pense pas que la gentrification soit partie des effondrements, ce serait faux de dire ça parce que c'était quelque chose déjà bien en place à l'époque, mais alors ça l'a vraiment bien aidé. Et je pense que dans cette histoire, la manière dont le système capitaliste et l'économie capitaliste arrivent à profiter du désastre, des déflagrations et de la mort et de la souffrance de dizaines de personnes, c'est un exemple de ce qui ne doit plus arriver. Donc, le procès, c'est en ce moment et vous pouvez vous rendre sur le site du collectif du 5 novembre qui propose divers moyens de se mobiliser et notamment d'écrire aux personnes qui ont perdu des proches lors de cette sinistre journée. Merci.
Canu Info. Du mercredi.
Et ben moi, figurez-vous que j'avais prévu de faire complètement la synthèse entre la dernière info et l'avant-dernière info, les normes et le cynisme du capitalisme. Bref, j'avais prévu de vous parler de la COP29, mais c'était de toute façon pour dire que c'était pas très intéressant. Alors comme il nous reste que quelques minutes, que c'était pas très intéressant, que ça allait rien changer, que c'était un truc où il y avait quand même bien plus de lobbies du pétrole qui se réunissaient que de gens qui risquaient de changer quoi que ce soit. Alors je vais plutôt laisser mon camarade faire une autre information sur ma foi, des histoires de Sea-Watch. Et ben c'est ça, plutôt que de faire l'inutilité des réactions officielles, on va essayer de voir du côté des résistances, c'est plus intéressant.
Tac, tac, tac. Bah oui, mais attends, d'abord, faut que je trouve mon info. Parce que, du coup...
Ah ouais, bah alors c'est pas grave, je vais vous lire un petit truc de mon info. C'était, depuis que les gouvernements prennent des engagements à des COP, voilà où on en est, titre de la presse. Aujourd'hui, on n'a jamais autant brûlé d'énergie fossile qu'en 2024.
Et ça y est, j'ai retrouvé, alors du coup, pas de générique parce qu'on n'a pas le temps. Sea-Watch porte plainte contre les autorités italiennes pour homicide involontaire par négligence. L'ONG accuse l'Italie d'avoir tardé à secourir une embarcation en difficulté début septembre au large de Lampedusa. 21 personnes sont mortes noyées. Le 4 septembre, les gardes-côtes italiens portent assistance à 7 personnes à bord d'une embarcation en bois qui prend l'eau à moitié submergée, tellement fiers d'eux qu'ils diffusent même une vidéo de leur sauvetage. Fiers d'eux, c'est aussi à dire à tel point ils sont sûrs de ne jamais rencontrer de problème, vous allez comprendre par la suite. Sauf que, comme le précise Sea-Watch dans son communiqué, le Seabird, qui est donc l'avion de reconnaissance de l'ONG, avait signalé cette embarcation avec à son bord 28 personnes et non pas 7 dès le 2 septembre. Et malgré les alertes répétées de Sea-Watch aux autorités italiennes et à tous les autorités qui étaient capables de secourir ce malheureux navire, les autorités italiennes ne sont intervenues que 2 jours plus tard. Les dernières indications fournies aux autorités par l'ONG donnaient le bateau à 26 miles nautiques, ça fait 50 km, au large de Lampedusa, soit à moins d'une heure de bateau pour les gardes-côtes. La plainte est soutenue par 3 survivants et le fils d'un noyé. Elle se fonde non seulement sur les déclarations des survivants, mais aussi sur des preuves photographiques et des rapports médicaux légaux, signale Sea-Watch. Pour l'assaut, ce n'est pas un acte isolé. Les milliers de noyades et l'impunité des responsables doivent cesser, je les cite. Ceux qui ne remplissent pas leur devoir de sauvetage doivent être traduits en justice, indique Olivier Kulikowski, porte-parole de l'association. Depuis le début de l'année, 1350 migrants ont péri dans la Méditerranée centrale, d'après l'OIM, qui est l'Observatoire international des migrations, et d'après ce même organisme, leurs chiffres sont toujours largement sous-estimés. Voilà, pour finir sur une note positive.
Cool.
Finalement, on n'a pas fini tant en retard que ça. De quoi vous dire que vous pouvez quand même filer tout de suite à la griffe parce qu'il y a une rencontre des cordistes en colère qui a lieu à la librairie de la griffe. Voilà, ça a commencé à 18h, puis à 19h, commençait une soirée débat avec des lectures publiques autour des luttes ouvrières cordistes. On les avait reçus ici il y a quelques années, il y a un an ou deux. C'est super, on voulait les recevoir ce soir, mais c'était pas possible parce que du coup c'était pile poil pendant les Canu Info. Donc si vous y êtes pas déjà, filez, prenez vos vélos et c'est franchement une chouette rencontre assurée. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne semaine malgré tout. Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Belle des radios.